Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
Et depuis le début du mois, je suis à moins 70% de mon chiffre d'affaires par rapport à N-1.
Depuis 15 jours, c'est, on va dire, 15 000 balles de chiffre d'affaires en moins. Je comprends pas qu'on manifeste encore, quoi. Stop, quoi.
Stop, disent ces commerçants, ces restaurateurs.
Bah, c'est vrai que les commerçants et les restaurateurs, notamment dans les centres-villes, ils se sont pris donc les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu le Covid, donc tout le monde a arrêté de travailler. Alors, ils ont été aidés, mais tout le monde a arrêté de travailler. Ensuite, l'inflation s'est installée, ce qui fait que beaucoup maintenant arbitrent. Et souvent, c'est le restaurant que tu décides de ne pas faire parce que ça coûte moins cher de manger à la maison. On pourra rajouter aussi télétravail qui n'a pas facilité notamment les restaurants à l'heure du déjeuner. Et puis maintenant, de nouveau, ces manifestations à répétition, la casse. Hier soir, moi, personnellement, j'étais dans Paris au restaurant, du coup, vers 22h, 23h, dans un quartier où habituellement, jeudi soir, il y a un monde dingue. Là, il n'y avait personne. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y avait des jeunes qui défilaient, il y avait de la casse, il y avait une ambiance de fin du monde qui ne donnait pas envie de sortir et puis surtout qui doit faire peur à beaucoup de gens.
Et des restaurateurs qui commencent à dire, là, je voyais, les annulations pour les week-ends des gens qui veulent venir à Paris et qui décident finalement de ne pas venir, d'annuler leur week-end. Et dans d'autres villes.
Il faut rajouter aussi les poubelles. Les ateliers. Il faut aussi rajouter les poubelles.
Mais je voyais annulation, tu sais, pour des week-ends, annulation du côté de Bordeaux, du côté de Nantes aussi.
C'est une vraie hémorragie qui est en train de se mettre en place. Je crois que le cégétiste qui disait je veux mettre l'économie de la France à genoux, il va y arriver, hein. Mais il peut en être fier, hein, parce que je rappelle, et là où j'en veux à tous ces types qui, au fond, mélangent les sujets, c'est que moi, j'ai quand même des chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, m'appellent et me disent « Stéphane, je ne pourrai pas payer les salaires à la fin du mois des salariés. » Parce que l'économie, effectivement, est en train de mettre un genou à terre. Et c'est quand même fou que des salariés qui vont manifester à l'extérieur contre une réforme des retraites conduisent des entreprises à ne plus être en capacité dès ce mois-ci à payer les salaires parce que justement, tu le disais toi-même, les commerces sont vidés. Sur les manifestations, je ne te parle même pas du niveau, on passe à 100% de perte de chiffre d'affaires et en moyenne dans le secteur, on est au mieux à moins 30% de chiffre d'affaires que ce soit les hôtels, les restaurants et tout le secteur du tourisme. J'ai discuté même avec un taxi ce matin qui lui-même est impacté. Il va faire moins bien, moins 20% par rapport au mois de février. Je rappelle qu'au mois de février, il n'y avait que 28 jours. Hein, donc ça te donne l'état dans lequel se conduit notre économie. Le télétravail, tu l'as rappelé. La peur, tout simplement, de se dire, mais si je sors dans un commerce le soir au restaurant, est-ce que je ne vais pas me faire, même si j'y vais en taxi, est-ce que je ne vais pas me faire happer par des voyous ? Non, c'est franchement, il faut que ça s'arrête, il faut apaiser
mais ça,
le pays.
La réponse, elle est politique.
Mais je pense qu'elle est aussi citoyenne. La réponse, elle est politique.
On n'est pas obligé de faire des manifs sauvages toutes les nuits.
Oui, t'es pas obligé, déjà. Deux, si elle est politique, tu as raison, je le disais tout à l'heure. Mais que les opposants qui crient à la dictature, etc.
Bien sûr, on n'est pas obligé.
Les politiques, les députés, les sénateurs.
Non, mais d'accord, mais quand tu entends Nicolas et que tu sens la colère et la motivation qui monte, la seule réponse à apporter, si tu veux calmer, les gens ne vont pas rentrer chez eux. On l'entend bien,
Alain,
là, aujourd'hui.
Qu'est-ce qui va se passer si à la fin du mois, 50% des salariés ne pourront pas être payés parce que les entreprises ne sont pas en capacité de les payer?
Notons que moi, j'ai jamais entendu des restaurateurs, j'ai jamais entendu des commerçants heureux. Hein. Depuis que je fais cette émission, ça devait faire 15 ans, je n'ai jamais entendu un commerçant qui nous dise « Non, ben ça va, j'ai fait du blé ce mois-ci. Putain, j'ai pris de la thune, je vais pouvoir partir en vacances. » Jamais. C'est toujours dramatique. Ça a été dramatique pendant un an avec les gilets jaunes.
Tu te dis qu'ils se plaignent trop ?
Ils ont, Je veux dire, les mecs sont toujours... Ils sont... Là où ils ont arrêté de pleurer, c'est quand ils ont pris 10 000 balles par mois pendant le Covid, sans travailler, en regardant Netflix. Là, ils ont arrêté de chialer leur mère.
Laisse-moi terminer.
Ils ont arrêté de chialer leur mère parce qu'ils foutaient rien, ils étaient payés. Ça leur permet d'ailleurs aujourd'hui de cracher ardemment sur les RSA qui gagnent 450 balles. Ils ont pris 20 ans de RSA quand ils étaient pendant le Covid. Mais ça, on les a oubliés, ces 20 ans de RSA. Attends, je continue. D'ailleurs, on les avait privés de travailler, tant mieux pour eux, mais au moins qu'aujourd'hui, ils ne crachent pas sur les pauvres. Mais moi, je n'ai jamais entendu des commerçants heureux. Effectivement, en ce moment, il y a une période de lutte qui va impacter plein de gens, pas seulement les commerçants, plein de gens. Je te promets que de se lever à 5h du matin à la place de 7h pour aller au taf parce que tu vas en vélo à la place d'y aller en métro, c'est la merde, c'est très pénible. Donc il ne faut pas qu'ils se plaignent. Tout le monde, non mais ils ont le droit, de toute façon c'est leur boulot de se plaindre, ils se plaignent tout le temps. Tout le monde est impacté par ça. Ça ne fait plaisir à personne. Ça emmerde tout le monde. Personne n'est content.
Personne n'est content de ce bordel. Une caricature et un mensonge que tu répètes en boucle ici. Un manque de recherche.
Menteur.
Sais-tu combien les salariés ont pris, combien ça a coûté à l'État pour la fermeture
administrative? Très cher.
30 milliards.
Mais oui.
30 milliards. Combien les entreprises dont tu vomis,
non, pas les
quand c'est engraissé, combien les patrons
ont
pris?
Ils ont pris, c'était 2 millions de personnes.
Combien ça a coûté?
Je sais pas, fait le calcul.
20 milliards. Alors arrête de raconter des conneries.
C'est rien.
Mais 30 milliards, les salariés.
Mais vous pleuriez pas.
Mais tu dis que les entreprises prennent des milliards et gagnent des...
Ça n'a rien à voir, le nombre.
30 milliards, les salariés.
Le nombre de gens concernés.
Mais tu te rends compte des conneries que...
Le nombre de gens concernés, il n'est pas le même du tout.
Elina Dumont.
Oui, alors...
Menteur.
Alors, merci de me laisser la parole. Alors, par rapport aux commerçants, là, moi, j'avais imaginé les choses autrement, mais j'ai très bien compris quel était le sujet. En fait, surtout... Moi, je pense toujours au même.
J'avais un peu peur.
En fait, là, on parle surtout du chiffre d'affaires. On parle...
La trésorerie.
Oui, on parle du patron, mais...
Non, mais du salarié aussi, parce que...
S'il n'y a pas de trésorerie, tu ne payes pas le salarié.
Mais en tout cas, il y a une étude qui a été faite par la DARES. Eh ben, je peux vous assurer que les salariés qui travaillent chez les artisans et dans les commerces...
Ils font travail.
Eh ben, eux, ils sont pour la réforme et ils racontent qu'ils sont bien contents que cette réforme existe. Et moi, qui me suis baladé il n'y a pas longtemps du côté... Comment ?
Ils sont contre la réforme ou pour la réforme ?
Ils sont pour la réforme. Ils sont contre la réforme.
Ils ne comprennent pas
rien. Excuse-moi, Olivier, tu sais bien que ma tête, des fois, dérape. Et ce que je voulais te dire... Écoutez, là, vous allez me trouver monstrueuse. J'avais un tournage, voilà, dans le 16e arrondissement. Et c'est vrai qu'il y avait plein de poubelles. Et moi, évidemment, moi, on m'invite. Hein, c'est pas avec mon argent que je peux me payer un super resto.
Dès qu'il y a des poubelles...
Mais c'est la solidarité, ça.
Ah, tu m'écoutes.
Mais je parle de solidarité, je vais dans ton sens.
Vas-y, Elina.
Oui, mais moi, si je vais pas jusqu'au bout, mon cerveau, après, il craque.
Vas-y.
Alors, laisse le cerveau d'Elina dérouler.
Et je vais vous assurer, ça m'amusait. Je me disais, pour une fois...
C'est dans le 16e.
Et je me disais, pour une fois, qu'à la place de sentir l'odeur de la thune, ils sentent l'odeur de la merde. Mais tant mieux, parce que moi, là, c'est historique. Mais cette odeur-là, moi, je la connais bien. Et là où je travaille, dans les bidonvilles et tout ça, c'est terrible. Il y a des bébés. Tu peux pas t'imaginer.
Non, mais c'est pas la faute des gens qui...
Attends, Olivier. C'est pas pour une fois qu'ils la sentent un peu, ça va pas durer éternellement. Bientôt les éboueurs, ils vont bientôt réquisitionner.
Ça marche pas très bien.
Il y a 6% des éboueurs en grève, ça fout le bordel.
Et ben moi, dans le 19e,
attends, moi, faut qu'on m'explique quand même. Excuse-moi, il y a 6% des éboueurs en grève du public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'éboueur du privé qui ramasse, lui, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de problème, lui, il va travailler. Il y a 6% des éboueurs à Paris du public qui sont en grève. T'as vu le bazar que ça fout? Mais ça veut dire quoi? Il y a 94% de salariés en trop dans ce cas-là. Parce que si 6% génère autant de bordel, c'est qu'il y a 94% de salariés en trop. Excuse-moi. Si 6% arrive à paralyser 6% arrivent à paralyser la ville, mais ça, c'est
parti
un truc
dans
de
un délire.
Alors mais attends, c'est actuel, Stéphane.
Non, mais déjà,
Stéphane,
ça prouve que c'est des
métiers utiles. Ça prouve que c'est des métiers utiles et c'est des métiers utiles qui sont mais évidemment, comme on l'a déjà dit, les plus mal payés.
C'est pour ça qu'il faut un service minimum dans ces métiers utiles.
C'est des métiers qui sont les plus mal payés.
Mais pourquoi dans le privé pas grève?
Et tu sais très bien que, bah parce qu'il y a une pression.
Alors Madame Hidalgo, payez mieux les éboueurs.
Ils ont des rapports.
C'est pas un sujet de retraite.
Mais tu sais très bien que,
tu as raison.
C'est pas un sujet de retraite.
C'est un sujet de salaire et c'est Anne Hidalgo le problème.
Il y a les deux.
Mais c'est Anne Hidalgo leur employeur.
C'est factuel. La moitié.
On voit Rachida Dati. Dès qu'il y a un truc, c'est Anne Hidalgo.
Mais c'est factuel.
C'est sa compétence.
Les salariés du privé ne sont pas. Attends, je termine. Les salariés du privé ne sont pas rémunérés par la mairie de Paris. C'est l'entreprise qui paye des salariés.
C'est Anne Hidalgo leur employeur.
L'employeur, et je constate de façon très factuelle que c'est uniquement. Et c'est le même métier. Tu rabasses les poubelles dans le premier comme dans le 16e. C'est la même chose. C'est les mêmes tas de merde. Donc à un moment, quand t'es dans le privé, tu fais pas grève, tu vas travailler, t'as le même niveau de pénibilité. Je me pose la question valablement. Qui est responsable? Écoute, c'est peut-être Madame Hidalgo qui devrait mieux payer ses éboueurs.
Vas-y, donc ça n'a rien à voir avec la première.
Absolument.
Attention, les gars, attention. Ouais, je parle moins fort. Les gars, vous savez mon pote Ludo, c'est mon pote.
L'éboueur, il explique qui est Ludo.
Et ben,
tu le vois partout.
Mais je le connais vraiment. J'ai fait plein de trucs avec lui via l'archipel des 100 voix où on donne la parole à des personnes comme Ludo ou des femmes de ménage. Et ben, je peux t'assurer que quand il t'explique par A plus B que les éboueurs meurent plus tôt que n'importe qui, ils ont des maladies.
Ils partent plus tôt.
Il part non,
mais c'est 59 ans. Mais si. Aujourd'hui, 59 ans.
C'est 57 ans aujourd'hui. Et avec la réforme, c'est 59 ans.
Non, mais ils peuvent pas. Ils ne partent pas.
Alors attends,
je
voudrais qu'on aille à Nantes écouter Stéphane.
Sinon,
bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Stéphane. Ah, ben tiens, Nantes, justement, où c'est chaud aussi les jours de manif. Vous êtes commerçant, vous êtes chef d'entreprise, dites-moi.
Alors oui, moi je suis chef d'entreprise et j'appartiens à un collectif de produits Made in France. Et là, on est justement aux Galeries Lafayette pendant 2 semaines et demie, pile dans ce laps de temps, donc c'est catastrophique.
Pas de chance.
Ouais. Ah ouais, les Galeries Lafayette ont 70% de ventes en moins par rapport à l'année dernière.
C'est une catastrophe, ouais.
Rideau à demi fermé à 15h30 le samedi, jeudi journée morte, mardi journée morte. Donc nous, franchement, on investit dans l'artisanat français, on investit dans l'industrie française, on fait en sorte de donner envie aux gens d'acheter du français. Et là, ben voilà ce qui se passe.
Et ce qui est terrible, c'est que donc, forcément, derrière, il y aura du chômage de salariés. Et donc, les mêmes diront, mais il faut que l'État nous aide, etc. Donc, ça sera encore plus de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle infernal. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de travailler. Et c'est pas, ça fait maintenant quand même plusieurs années, notamment dans le centre des villes.
Payent pour les retraites. Hein.
Et je rappelle quand même qu'effectivement, le système de retraite, il faut que les gens travaillent, sinon on ne peut pas payer notre système par répartition. Donc, en fait, tout ça est très contre-productif, en fait.
Ah mais c'est totalement le chien qui se mord la queue.
Bah oui, je rappelle que les Galeries Lafayette, comme les autres magasins, les magasins de vêtements et les magasins de vêtements et les magasins de chaussures ferment depuis 6 mois maintenant régulièrement, Marina, etc. Et les galeries sont concernées. Ça n'avait pas de rapport avec les manifs, c'était bien avant les manifs et bien avant la lutte.
Bah justement,
tu plaides dans l'idée qu'on peut te les laisser travailler.
C'est pour ça que c'est fermé. Et là, les Galeries Lafayette nous tendent la main. Donc, il y a un collectif qui s'appelle Apollinaire. C'est 2 filles extraordinaires qui ont mis en place ça. On a une visibilité, nous, aux Galeries Lafayette, chose pour une petite marque. Moi, je m'appelle Les Compères, je suis tout petit. Et ben, c'est génial. Et là, tout leur travail est anéanti. Donc, à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que là, le pompier pyromane qui est à l'Elysée, moi, j'ai l'impression qu'il a besoin qu'il y ait du monde dans la rue qui casse des trucs. Et c'est vraiment tellement dommage pour les commerçants et pour les gens qui se battent pour du Made in France, pour donner envie aux gens, en fait, tout simplement.
Mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui empêche les clients de venir aux Galeries Lafayette, Stéphane.
Non, mais c'est...
Moi, je connais la famille Ouzé qui est pour
pas perdre. Tu as entendu ce qu'il dit.
Les Galeries Lafayette, je suis persuadé qu'ils vont prolonger...
Non, ce qu'il dit, c'est pas... Il dit que si Macron lâchait sur la réforme, ça réglerait le problème.
Mais c'est là qu'il y a un gouvernement. C'est-à-dire que tu dis, à chaque fois que la Russe met...
Attends, allez-y Stéphane, pardon.
Pas que lâcher en fait, c'est que là il a tout fait à contre-courant, c'est-à-dire que là on a une crise énergétique, on a une crise du pouvoir d'achat, enfin...
Mais il faut financer aussi un système.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a des façons de faire, il y a des façons de l'amener, il y a des façons de parler aux Français.
Non, mais ça, je suis d'accord. Il a été très mauvais. On va en parler dans un instant.
Je
ne
sais pas s'il a été très mauvais, parce que si vraiment l'économie craque et que les banques craquent en Europe... Bah, je pense qu'on dira,
c'était pas si mal la réforme des retraites parce qu'on va être en capacité de ressortir potentiellement 30 milliards à payer des salaires à rester peut-être à la maison, hein. En tout cas, assurer une meilleure protection. C'est aussi ça, la solidarité.
Oui, mais t'es très mauvais dans le sens.
Moi, je suis absolument pas contre cette réforme des retraites. Si on a besoin de la faire, il faut la faire. Mais après, il y a des façons. Il y a des
oui,
façons
non,
de la faire,
il a été très mauvais sur la façon de le faire.
Mais Stéphane,
comment... Il est pas bon, il y a plein de choses qui sont pas bonnes.
Dites-moi, Stéphane, ça risque. Il y aura des manifestations demain encore à Nantes, je crois, non?
Ouais, ouais, exactement. Donc, les filles,
les Nantais sont chauds.
Ouais,
merci Stéphane d'avoir été avec nous. Je vous souhaite courage. Je vous envoie un t-shirt des GG petit lot de consolation.
Daniel Stéphane. C'est non, bon, mais excuse-moi, non mais excuse-moi Stéphane. Je voulais te dire par rapport à la restauration, ça fait bien longtemps avant les grèves de la réforme contre la réforme que les gens vont beaucoup moins au restaurant.
Non.
Attends.
Mais non, c'est faux.
Et ça il y a eu plein d'enquêtes. Les gens, ils vont dans les sandwicheries
qui disait les restaurateurs se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents. Il ment, et en français. Je le dis parce que ici, à l'antenne, j'ai régulièrement dit quand les chiffres étaient bons, je disais, je remerciais même les Français qui vont au restaurant, qui revisitent la France, qui vont dans les commerces de proximité. C'est faux. Je l'ai dit régulièrement. Je remercie encore. Et tu vois, merci. Hier, t'étais dans un restaurant. Ben, c'est très bien. Faites que tout ce qu'on
Disait, tout le monde a pas la thune que vous avez.
Mais c'est pas une question de thune.
Ça veut rien dire.
Mais je veux dire, faut avoir de l'argent pour aller dans un bon restaurant.
Mais c'est quoi un bon restaurant?
Tu sais combien il y a de restaurants à Paris?
J'en sais rien.
18 000.
Enfin bon, moi, personnellement, si on m'invite pas, je vais pas au resto.
Mais très bien, mais c'est pas parce que tu ne vas pas au resto qu'il faut soutenir ceux
qui... Il y a quelqu'un qui paye. Ah bah ça paye de l'économie,
je confirme. Ça, c'est terrible, ça. Donc moi, je vais pas au resto, donc ça me dérange pas que les restos soient fermés.
Non,
c'est quand même assez égoïste comme raisonnement.
Mais tu le dis toi-même tout à l'heure, tu disais, tu as une amie qui est femme de ménage et qui cherche du travail. Moi, je la recrute volontiers. Si elle a le profil et qu'elle est motivée, je la recrute volontiers. Mais à un moment... La croissance, elle se fait comment? Parce qu'à un moment, il y a des clients.
Bah oui.
Nous, on n'est pas la Banque Centrale Européenne, on n'imprime pas des billets, puis on vous paye.
Mais vous...
C'est parce que justement,
allez,
il y a des
dans
clients.
Un instant, puisque Stéphane le disait, il appelait
de l'argent
il
avec des gens qui travaillent, c'est important.
Bien sûr.
Etienne, Stéphane nous disait,
c'est des entreprises non délocalisables, Yelena.
Il appelait le président de la République le pompier pyromane. C'était sa propre expression. Mais justement, ce sera notre GG 7 et match. Emmanuel Macron. Macron est-il foutu? 32-16, fichu, cuit, cramé. Choisissez l'expression. Et on en parle au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Stéphane Manigol, restaurateur, Yelena Dumont, intervenante sociale. Et Étienne Liebig nous accompagne pour cette dernière partie des GG. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est l'heure du GG 7 et match.
RMC. GG, 7 et match.
Au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation, alors que la violence s'installe, qu'on a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue mardi prochain, la question qui se pose, c'est Macron est-il foutu, fichu? Monsieur Ruffin François, député de sa fonction, était l'invité d'RMC et BFM TV ce matin et d'Apolline de Malherbe.
Aujourd'hui, monsieur Macron est seul contre tous. Il est même qu'au sol contre les députés de sa majorité qui voulaient aller au vote à l'Assemblée nationale et qui n'y sont pas allés. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est de l'orgueil. Il a une stratégie du chaos. L'homme du chaos, il est là-haut. C'est lui qui installe le désordre social dans le pays par cette mesure. Et ensuite, pourquoi? Parce que c'est un pyromane. Et ensuite, il va venir se présenter comme étant le pompier qui doit venir rétablir l'ordre dans le pays.
Voilà l'analyse de Stéphane, de François Ruffin ce matin, parce que je suis entouré.
Il y avait que des Stéphane.
Il y a pas que moi qui me.
Puis Étienne, il s'appelle Stéphane en fait.
Monsieur Étienne Liebig.
Non, bah figure-toi que c'est à moi qu'on a donné la responsabilité
de la minute.
De la minute.
Monsieur Étienne Liebig et Madame Yelena Dumont sont dans l'équipe qui dit oui, il est foutu, ma chère Yelena. Oui. C'est parti.
C'est une grande responsabilité que vous me donnez, mais j'assume. Oui. Pour moi, Monsieur Macron est foutu. Depuis son 13h, vraiment, il a été trop loin. Au début, quand il nous a présenté sa réforme de retraite, moi, je me suis dit, waouh, génial, tout le monde aura au moins 1000 euros net, il y aura plus de petite retraite à 600 euros. Et puis, au fur et à mesure que les journalistes, des bons journalistes comme Alain ou Olivier, bien sûr, hein, ont gratté, eh ben non, tout à coup, on apprend, ah ben non, pas tout le monde, il faudra faire 48 annuités. Bah sinon, alors là, évidemment, là, j'ai commencé à comprendre la fameuse retraite et je me suis aperçu que bah, tout compte fait, il y aurait encore des gens pour très longtemps qui auront des retraites à 600 ou à 800 euros. Et en plus, je remarque parmi les macronistes, certains sont même pas d'accord avec cette réforme. Je dis aussi, je m'en fous, je continue.
Ah, et je vois ça,
depuis
ouais.
qu'il y a eu un don de record de 30 000 euros pour par la Caisse de solidarité interprofessionnelle a atteint 1,7 million d'euros. Donc les gens, ils peuvent perdre une journée de travail, ils savent qu'ils pourront
tenir.
Et puis, attendez, oui, son trésor, excusez-moi la phrase, la pire. D'ailleurs, il faudra qu'il s'explique. Ah oui, je voulais dire, il faudra qu'il s'explique face au dire des deux syndicalistes qui l'ont traité de menteur et dire que le peuple au SMIC n'a jamais
c'est
eu.
Oui.
Ah non, mais excuse-moi là.
Mais c'est 60 secondes, Elina.
Ah oui, j'ai
pas envie de me mettre en grève.
C'est 60 secondes.
Vous m'avez donné
en grève, Olivier. Une minute, c'est pas 60 heures.
Non, mais vous m'avez donné une telle responsabilité.
Oui, t'as voulu bien faire.
Voilà, j'ai fini.
Alors réponse, il est pas foutu question, Macron.
Non, mais est-ce que Macron est foutu? C'est un slogan de rue qui peut être valable pour le cornu, mais certainement pas pour Macron. Macron, il est à son deuxième mandat, il est candidat à plus rien, donc il peut accélérer comme il le souhaite, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il risque? Une fracture du pays, c'est vrai, et il n'y a pas intérêt. Mais c'est justement dans ces moments où il y a plus d'enjeux politiques. De calendrier électoral que justement il n'est pas foutu et qu'il peut accélérer, qu'il peut faire des réformes et qu'il peut faire des choses. Donc moi je trouve que non, et justement il n'est pas foutu, non. Contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'enjeu, on ne peut pas dissoudre. Donc voilà, non.
Non, moi je...
Étienne.
Justement, sur ce plan-là, je pense qu'il est foutu parce que je crois qu'on va déboucher sur une... Il y a une telle opposition... Et il a tellement mal manœuvré.
Mais toi, viens dans le micro,
il a
Étienne.
Tellement mal manœuvré son affaire qu'il a perdu beaucoup de crédibilité, y compris auprès de ceux qui étaient ni pour ni contre, qui finalement disaient ce type est pas plus mauvais qu'un autre, après tout. Donc, je pense qu'il a, et je pense que maintenant, ça va être très difficile de faire du Macron. En fait, ce que Macron a perdu, c'est le symbole Macron. C'est-à-dire cette façon dont il s'est présenté à la première ou à la deuxième élection. D'abord, comme quelqu'un de jeune, quelqu'un qui comprenait l'histoire de l'Europe, quelqu'un qui comprenait l'histoire où on en était en France, et ça, c'était important. On est en 2023 et on en a marre des gens qui nous gouvernent comme en 1950, et même moi, qui suis pas macroniste, je trouvais ça très bien d'avoir quelqu'un qui soit au niveau, qu'on puisse enfin se battre contre la Chine, qu'on puisse se battre contre les États-Unis avec les vrais outils, plutôt que de continuer d'avoir des gens qui nous parlent des années 50 comme les années rêvées, en disant c'était mieux avant. Donc j'étais content d'avoir quelqu'un comme ça, mais ça, je crois que c'est mort. Je crois qu'il a montré là qu'il avait pas la capacité de ce qui nous, il nous a fait rêver sur quelque chose qui n'existe pas. C'est un ringard en réalité. C'est pas un type, mais oui, je m'en excuse parce que je suis pas anti-Macron, moi. C'est quelqu'un qui a montré qu'il n'avait pas le niveau de ce qu'il nous a raconté. C'est pas quelqu'un qui est dans son temps. C'est quelqu'un qui gouverne comme il y a 50 ans. Et ça, c'est plus possible. Et tu le sais très bien, puisque nous avons eu cette discussion. On ne peut pas aujourd'hui parler des retraites sans parler en 2023, ce qui n'est pas 2020-2019, de la situation de ce que devient le travail dans le monde et en France.
Il veut faire,
c'est une énorme connerie. Il a tout inversé. Il fallait faire un énorme débat sur le travail. Il y a des milliers de personnes qui vont perdre leur travail parce que oui. Oh, il y a des automatisations qui vont se faire et on continue de réfléchir comme dans les années 50. Je dis, il est ringard et ça va être difficile de faire du Macron.
Mais peut-être que Macron n'aura pas dû être élu. C'est peut-être ça la question. Peut-être qu'effectivement, en fait, Macron ne devait pas faire un deuxième mandat parce qu'on d'ailleurs, on se demande bien à quoi sert ce deuxième mandat. Il a d'ailleurs du mal à le définir. Interview après interview, on est toujours à se poser la question, mais c'est quoi le sens de ce second mandat?
Sans enjeu.
Mais pourquoi il fait un deuxième mandat? Parce qu'il n'a pas d'alternative. En fait, la force de Macron, c'est la faiblesse de ses adversaires. Et pourquoi il a été réélu, Macron? Essentiellement parce que les gens ont regardé les 10 ou 12 candidats et se sont dit, bah, finalement, sur les 12 candidats, c'est le moins mauvais. Jean-Luc Mélenchon, il fait peur. Marine Le Pen, pour beaucoup, elle n'est pas compétente. Et je ne parle pas de Valérie Pécresse qui s'est effondré, d'Anne Hidalgo qui n'existait pas, etc. Des écologistes qui politiquement n'arrivent pas à dépasser les 5%. Donc tout ça fait que il a été réélu et donc la force de... C'est pour ça qu'il n'est pas foutu, parce que tant qu'il n'y a pas une alternative sérieuse, bah, il pourra continuer. Alors à mon avis, il va être quand même sortir très abîmé de cette séquence, je sais pas comment il va en sortir, et que ça va être compliqué pour lui dans les 4 ans à venir de faire vraiment des réformes. Donc il va être sur des choses très consensuelles, la fin de vie, voilà, des choses que bon, les institutions, bon, ça mange pas de pain, mais pour le problème, c'est que les Français sentent bien qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque c'est la gauche qui est dans la rue, et on se dit, bah, c'est Marine Le Pen qui va en profiter. Alors qu'on devrait se dire, bah, si la gauche est dans la rue, il y a bien quelqu'un dans cette gauche qui va aller toujours surgir, etc. Alors, il y a des personnalités qui surgissent, comme François Ruffin. Je pense François Ruffin marque des points en ce moment. Mais de là, pour l'instant, à part comme présidentielle, il y a du chemin.
On en a parlé toute la matinée. T'es d'accord que personne n'a l'intention d'arrêter, sinon à quoi bon faire tout ça pour ça, ça n'a aucun sens. Et là, on a eu des auditeurs comme Nicolas, ils ont pas l'intention, ils vont aller jusqu'au bout.
Et Macron va trouver une porte de sortie, parce que ça reste quand même un homme politique.
Parce que le grand débat, alors, ça a été la porte de sortie des Gilets jaunes, il peut pas refaire le grand débat, quoi.
Non, mais en plus,
il refera pas le grand débat.
Et en plus, Olivier, il sera d'accord avec moi, puisqu'il m'a un peu soufflé l'idée. Et au pire, au mieux, s'il retire le texte, il est foutu quand même, parce que la population dira, ça y est, on a trouvé le mode d'emploi. Oui, maintenant, à chaque,
je pense que c'est... Mais non, Chirac l'a fait, ça a pas été foutu pour lui.
C'est à la fin de son quinquennat.
Alors attends, on va passer par la Drôme. Écoutez Benjamin. Bienvenue Benjamin.
Bonjour les grandes gueules.
Alors, on pose la question. Emmanuel Macron est-il fichu, foutu, cramé, grillé, rincé ?
Pas du tout. Alors déjà, factuellement, en politique, on n'est jamais foutu. C'est factuellement. Sarkozy était foutu avec Balladur. Il a été élu président de la République. Chirac a dissous l'Assemblée en 97, il était soi-disant foutu, après avoir dissous l'Assemblée nationale, il est repassé en 2002 face à Lionel Jospin, et justement, il n'est pas foutu, parce que j'ai écouté Elina, excusez-moi, je vous appelle par votre prénom,
vous avez
aujourd'hui,
raison.
On entend une majorité silencieuse. Quand vous dites, madame, les Français, moi je suis commercial, je travaille chez Relais Dormico avec la restauration, il y a une France, justement, qu'on n'écoute jamais, la France qui travaille, madame. Donc aujourd'hui, vous, ce matin, vous parliez dans le premier débat, il n'est pas foutu, Emmanuel Macron, parce que justement, il y a encore plein d'emplois disponibles. J'écoutais ce matin, vous disiez, Elina, des jeunes de 18 à 25 ans ne trouvent pas de travail.
Il y a un taux de chômage énorme.
Écoutez, madame, nous recruterons des commerciaux, des chauffeurs, des préparateurs. Nous n'avons pas de candidats. Donc aujourd'hui, il n'est pas foutu, parce que justement, vous voulez, avec vos syndicats et les gens de gauche, Mélenchon, Marine Le Pen, les extrêmes, vous voulez toujours la minorité imposée à la majorité. Sauf que les gens qui travaillent, les agriculteurs, les artisans, ils n'ont pas le temps d'aller manifester parce qu'ils bossent. Et justement, vos collègues, alors c'est en cas politique, mais vos collègues de gauche ont détricoté les 35 heures. En fait, on a dévalorisé le travail. Mais les gens veulent travailler aujourd'hui. Nous, hier, nos chauffeurs n'ont pas pu aller livrer nos clients parce qu'il y avait des manifestations de partout. Et il faut une réforme des retraites. Sauf qu'en France, on ne veut jamais. On est toujours contre et jamais pour.
Excusez-moi, mais Benjamin, mais quand on fait les sondages qui concernent tous les Français, à moins que, voyez par exemple sur les, quand on fait des sondages, les gens sont plutôt grosso modo de droite et plutôt d'accord avec vous. Là, quand même sur cette réforme là, on obtient toujours à peu près les mêmes résultats de tous les sondages, 70-30,
y compris chez les actifs.
Regardez les sondages, une agence.
Oui, mais là, si vous voulez, c'est
perdu.
Vous pouvez pas dire ça parce que là c'est systématique.
Il a raison, Étienne.
Oui,
on peut pas. Quand les sondages nous arrangent, on dit regardez les sondages. Quand ils nous dérangent, on dit non,
mais tu vois bien que tous les sondages donnent le même résultat. C'est pas, il y a pas une discussion, il y a pas un débat.
Moi, dans tout mon entourage, donc
tout le monde est d'accord avec la réforme.
On n'a jamais été sondé, donc c'est pareil. On peut prendre 1000 personnes, vous en avez 800 qui répondent, mais sachez qu'il y a 26 millions de salariés en France, il y a 1 million à 2 millions dans la rue.
C'est pas Benjamin, ça. Benjamin,
c'est les syndicats, la vie, l'extrême gauche, Benjamin, et les casseurs. Et les gens, Stéphane Manigault l'a bien dit, il est dans la restauration, dans le commerce. Nous, je travaille chez Relais Dormico, donc avec des professionnels de la restauration, il y a... Amenez-moi vos candidats.
Tout le monde est d'accord avec la réforme.
Benjamin, il y a un élément important qui vient là, s'immiscer dans notre discussion. La visite du roi Charles III est reportée.
Oh là là.
Ah,
À cause des restaurants fermés.
C'est mieux. C'est mieux.
Il peut plus aller au resto.
La visite du roi Charles.
Ah, ça,
c'est énorme.
Bien.
C'est énorme.
Le communiqué de la présidence de la République est le suivant. Compte tenu de l'annonce hier d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, la visite du roi Charles III initialement prévue dans notre pays sera reportée. Cette décision a été prise par les gouvernements français et britannique après un échange téléphonique entre le président de la République et le roi ce matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié.
Il n'est pas mort.
Cette visite d'État sera reprogrammée dans les meilleurs délais.
C'est un camouflet. C'est un camouflet terrible pour la France, pour l'image de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'accueillir un chef d'État. Alors, il faudra quand même creuser, parce que est-ce que ce sont les Britanniques qui ont pris cette décision? C'est peut-être les Britanniques qui se sont dit, oh là, c'est trop compliqué. Et donc, la France est obligée de dire d'un commun accord. Donc, il faudra voir précisément quels sont les dessous de cette... Ouais. Parce qu'il y a encore, il y a encore 24 heures, les Britanniques disaient, non, on fait la confiance à la France pour organiser le truc. Donc, visiblement, quand même, depuis 24 heures, les choses ont changé. Sans doute, il n'y a pas de garantie de sécurité. En plus, qu'il devait se déplacer dans plusieurs endroits. Oui, mais pas seulement en région parisienne, il devait aller à Saint-Denis. Va à Saint-Denis en ce moment.
Aubervilliers,
c'est emmerdant pour Stéphane Bern.
Non, mais je veux dire, c'est un camouflet quand même pour la France. L'image de la France. Ouais. Parce que dans le monde entier, dans le monde entier, on va dire quoi? Le roi Charles ne peut pas aller en France.
Et en plus, si ça vient de la France, ça vient aussi de la France, ça veut dire que quand même le gouvernement français a peur pour mardi quand même.
Oui, mais on va dire pas ça normal aussi, de gouverner ça veut dire par la peur. C'est pas
on en parle. Dans les GG, on va se mettre en discuter.
Moi, je vois déjà le slogan des manifestants. On a eu le report du roi Charles, on aura le report de la retraite. Mais oui, bien sûr. Truchot président.
On était dans le GG 7 et match sur Macron et foutu, mais on va continuer plutôt de discuter du report de la visite du roi Charles III avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est
j'aime beaucoup Charles.
Un véritable camouflet. Vous tutoyez d'ailleurs.
Je l'ai eu. Mais rien envoyé, je comprends pas.
Avec Camilla, surtout très pote avec Camilla.
Non, tu peux dire Macron, t'es foutu, le roi n'est pas venu.
Allez, on en discute avec vous dans les GG au 32-16.
Allez.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on est tous là en train de regarder nos portables parce qu'on vient d'apprendre qu'il y avait
J'ai reçu le SMS.
La visite du roi Charles III était reportée. Cette décision, c'est ce que dit le communiqué officiel de l'Élysée, a été prise conjointement par les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre le président Emmanuel Macron et le roi Charles ce matin. Compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée de manifestation d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars. Alors, du coup, on a trouvé des slogans. Ton slogan, Olivier, c'était lequel?
C'est « Macron, t'es foutu, le roi n'est pas venu ».
Et moi, on a annulé le roi, annulé la loi.
Et oui. Alors, je vois déjà sur les réseaux sociaux, par exemple, Charles III bat en retraite.
Pas mal.
Mais la vraie question... est-ce que Macron est en train de prendre conscience de ce qui se passe dans le pays et qui se dit on va pas rajouter parce que Darmanin ce matin il dit on va déployer 4000 policiers pour Charles III, c'est-à-dire que ce matin Darmanin qui était chez nos confrères de CNews vers 8h30 donc ça veut dire que Charles III vient à 8h30 puisque Darmanin dit il y a 4 palpes, ou alors il est pas au courant.
Il est quand même ministre d'intérieur,
4000 policiers.
Pendant ce temps à l'Élysée ça téléphone.
Et à 11h30 finalement on annule Charles III. Donc que s'est-il passé? Sans doute les images, peut-être que les Britanniques se disent dans ce contexte on peut pas venir. C'est la première visite de Charles III depuis qu'il est roi à l'étranger. Enfin voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en...
T'imagines? Si déjà que les forces de l'ordre vont être très concentrées,
notamment mardi,
la manifestation, des manifestations. Si en plus il faut 4000 personnes pour assurer la sécurité du roi, qui finalement c'est pas si important que ça sur le plan de notre, on s'en fout un petit peu.
L'image.
En même temps, on est en 2023. Bon, le coup du roi, franchement, un roi qui n'a aucun pouvoir, qui n'en a jamais eu dans son pays, c'est purement symbolique. Maintenant, tu sais le rapport. Moi, le symbole, je m'en tape.
Est-ce que ça n'allait pas être vu comme une première victoire pour les manifestants?
Moi je pense, tu te rends compte que les manifestants vont se dire
c'est grâce
parce que s'il n'y avait pas eu mardi, le mardi 28, Ouais. Ça aurait été possible.
Oui, oui. Mais c'est la nouvelle journée d'action de mardi qui fait changer d'avis. Oui.
Parce que.
Objectivement,
il y a Paris.
Il devait être à Bordeaux.
Il devait aller à Bordeaux.
Et il y a beaucoup de manifs.
Il devait prendre le tram, c'était prévu hein, dans le protocole, qu'il devait prendre le tram. Et depuis hier, tu as les conducteurs et des manifestations et des manifestants à Bordeaux qui ont dit, et des syndicats qui ont dit, on saura réserver un accueil au roi Charles III et personne ne conduira le tram de Sa Majesté le roi Charles III. Donc si tu veux, il y avait non seulement le risque à Paris, la manif de mardi à Bordeaux, le protocole, c'est impossible à gérer.
Voilà,
impossible.
Mais simple, et je pense que la porte de la mairie de Bordeaux en flamme, qui passe en boucle sur toutes les chaînes info, les Britanniques, ils l'ont vu aussi. Ils devaient être à Bordeaux mardi. Et tu vois la mairie de Bordeaux qui est attaquée. Donc tout ça, à mon avis, fait que les Anglais ont dû se dire, oh là là, c'est pas possible.
Les Anglais qui sont pas dans une meilleure situation.
Oui, mais peu importe.
De toute façon, là, hors antenne, on faisait de l'humour suite au communiqué du roi. Moi, je disais, bah tiens, il y a le comité olympique.
Pas moi, parce que moi.
Toi, t'es béni.
Prévu d'aller rencontrer, essayer d'approcher Camilla.
C'est triste de se dire quand même que.
Je t'ai dit, c'est impossible.
T'as aucune chance.
T'es con d'y croire.
Potentiellement, tu dis, tu vas avoir un communiqué du comité olympique, un communiqué du comité olympique qui va dire, bon, bah, suite à l'ensemble des mouvements, nous considérons que la France ne sera pas, enfin, Paris ne sera pas en capacité entre les poubelles, les grèves et machin, on ne pourra pas accueillir les Jeux Olympiques.
Bon, c'est une bonne idée.
Faut quand même pas mélanger tous les sujets parce que le rayonnement de la France, le tourisme, par exemple, c'est 8 points de PIB de la France. C'est pas négligeable. C'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça emploie 1 million de personnes. On peut pas comme ça dire bon bah voilà, le roi il vient pas, c'est pas grave. À l'international, il y aurait eu de belles vidéos. C'était formidable pour mes amis de Bordeaux.
Mais encore une fois, c'est l'image que ça renvoie. C'est-à-dire que là, on envoie l'image d'un pays qui est un peu à feu à sang, qui ne peut pas accueillir une personnalité. Ce qui n'est pas complètement arrêté, mais il n'est pas à feu à sang, le pays. La plupart des gens travaillent, continuent à vaquer à leur occupation, etc. Il y a des manifestations nocturnes, il y a des grosses manifs toutes les semaines, etc. Mais c'est pas à feu à sang. Néanmoins, ça renvoie cette image. Et à l'étranger, c'est terrible, parce que ça va être ça. Et on voit déjà les titres.
François va en parler avec nous. Bonjour, François.
Oui, bonjour, madame. Bonjour,
François Premier. François, vous appelez des Bouches-du-Rhône, vous êtes graphiste. Et vous vouliez le relier à la question qu'on posait précédemment, c'est ça, sur le Macron est-il foutu? Pourquoi?
C'est exactement la conclusion de votre question précédente. C'est-à-dire que ce renoncement du roi Charles à venir en France est bien la preuve que Macron est foutu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue de gouvernance, le président. Le président Macron a été élu, il ira jusqu'à la fin de son mandat. Donc techniquement, pour ça, il n'est pas foutu. Par contre, dans l'histoire, parce que M. Macron aime bien relier les choses à l'histoire et il aimerait bien se relier et se rattacher à l'histoire, dans l'histoire, cet événement et ce renoncement de la venue du roi Charles, c'est catastrophique pour lui.
Catastrophique.
Bah, c'est un aveu de faiblesse.
Non, mais ce qui lundi, on n'en parlera plus. Ce qui aurait été catastrophique, c'est qu'il vienne et que ça se passe très mal. Ça, ça aurait été catastrophique.
Non, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui. Je suis désolé. L'État français n'est pas capable d'accueillir normalement un chef d'État. C'est un aveu de faiblesse.
C'est-à-dire
que aujourd'hui.
Non, mais. C'est les citoyens qui sont pas capables.
Non, c'est l'État français.
Non, bien sûr.
C'est l'État français.
Et en même temps, non, mais faut trouver. François, c'est à la fois effectivement, il y a le bordel et les flics sont occupés, donc on va pas assurer 4000 pour s'occuper du roi. Et en même temps, c'est pas dramatique. Dramatique parce que le roi, sur le plan de la représentation, c'est uniquement un symbole.
C'est pas
ça,
c'est pas le fond de la
visite. J'ai compris ce que tu veux dire.
On va organiser dans un an et demi l'un des rendez-vous les plus suivis au monde, les Jeux Olympiques de 2024. Si on n'est pas capable, la Coupe du Monde en septembre, il y aura peut-être des manifs. En 2024, moi j'en sais rien, sans doute certains en profiteront. Donc si on n'est pas capable d'accueillir pendant 3 jours le roi d'Angleterre, on a l'ambition de faire les JO, on a l'ambition de faire... Souviens-toi ce qui s'est passé le Stade de France, la Ligue des Champions, on n'a pas été capable d'organiser dignement la finale de la Ligue des Champions, on a accusé ces pauvres Britanniques alors qu'on sait bien que c'est pas ces pauvres Britanniques.
T'as lu le rapport?
Oui,
c'est la faute de la police.
Donc on a
directement
la France est un pays qui déclare
décline et on le monte chaque jour. Oui, bah la France, comme les autres pays européens.
Mais c'est marrant ce que tu as dit.
Attendez,
si la police avait vraiment fait son travail et avait empêché.
Non, pas du tout.
Pas en même temps.
Lis le rapport.
Étienne, s'il te plaît. François, allez-y.
La France n'est pas un pays qui décline. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les Français sont des gens courageux. Tous les Français. Qui soient des plus hautes études jusqu'aux masses populaires, la France est un pays de gens courageux.
Bah, c'est pas ce que j'ai dit.
Ce qui décline, ce sont nos gouvernants et nos politiques.
Oui, mais qu'on choisit. Pardon, oui, excusez-moi. On a les élus qu'on mérite, François.
On a eu beaucoup de choix par défaut.
Oui, mais on a les élus qu'on mérite, François.
Il faut arrêter de dire que la France, elle décline.
Mais si, elle décline. Elle décline et chaque jour, on le voit.
Mais François, tous les pays européens, par définition, déclinent par rapport à ce qu'ils ont été face à des pays comme la Chine qui n'existait pas il y a 30 ans. Donc évidemment qu'on décline.
On est incliné face à ce genre de pays.
Mais non. Il y a une réalité économique.
Il n'y a pas de fatalité.
Mais bien sûr qu'il y a une fatalité.
C'est pour ça qu'on décline.
Quand un pays qui n'existait pas sur le plan international, qui se met à être le pays le plus puissant du monde, il y a quand même un petit peu.
C'est pour ça qu'on a créé l'Europe, Étienne.
Sauf qu'il y a des anti-européens.
Non, le problème, c'est qu'en Europe, on n'est plus capable de produire des choses.
Non, on n'a pas d'armée européenne, on n'a pas une organisation européenne à cause des gens qui s'y opposent. Mais non, arrête ces conneries.
C'est bien. Un problème de faiblesse politique.
Oui. Et des gens comme Étienne qui, de toute façon, partent défaits, en fait, en quelque sorte.
On peut être bon dans notre domaine.
François, merci d'avoir été avec nous, François. Merci d'avoir été dans les GG. Comment ?
Je voudrais passer un bonjour à toute l'équipe qu'on voit pas, qui est derrière vous et qui fait tourner votre émission.
Ça, c'est vrai.
C'est des poulots, hein. Vous savez, ils sont
plein de gens.
Je trouve qu'ils sont pas mal payés pour ce qu'ils font, moi.
Et j'en profite pour dire. Attends, juste un truc. Et j'en profite pour vous dire que le 1er avril, il y a une manifestation pour réformer le logement.
Encore.
Place de la Bastille, avec le DAL et tous les partenaires qui sont
1er avril, c'est pas forcément une bonne date, mais bon.
Eh ben oui, mais c'est la fin de la trêve hivernale.
Ça tombe à 1er avril.
Vous savez quoi? On avait posé la question, Macron est-il foutu?
On a gardé la question
simplement pour voir l'ampleur de la réponse. On se doute dans quel camp elle est, la réponse.
76%. Toujours le même niveau.
Oui, c'est vrai.
Toujours pareil. C'est pour ça que je disais à notre camarade tout à l'heure, ça peut pas être un hasard non plus, quoi, en gros, hein.
Nous, on a perdu.
Non, ça correspond à l'étiage des sondages qu'on a depuis le début de cette réforme, de la contestation de cette réforme des retraites. Donc, la dernière minute de l'actualité, c'est le report de la visite du roi Charles III en France en raison du climat et de l'annonce d'une nouvelle journée de manifestation mardi prochain.
Coup dur pour Stéphane Bern.
Philippe Martinez a eu le roi.
Encore un Stéphane.
A eu la peau du roi.
Enfin, façon de parler.
Oui, bien sûr.
La peau de la visite. Madame Estelle Denis.
Mademoiselle.
Queen Estelle.
Mademoiselle.
Queen.
Princess. Mais écoutez, nous aussi, nous allons parler de ça, mais c'est incroyable. Voilà, ce report de la visite de Charles III.
Yes.
On va se demander si c'est un scandale, tout simplement, ce sera à 13h. Mais bien sûr, avant, on va revenir sur les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites. 70% des Français estiment que c'est la faute du gouvernement. D'accord ou pas d'accord avec ça? Et puis enfin, l'infidélité des femmes augmente.
Ah bah ça, c'est pas un scoop, hein.
Plus d'un tiers des femmes avouent avoir déjà trompé leur conjoint.
Accessoirement, quand il y a un homme, il y a une femme aussi avec.
Oui, mais les hommes, ça baisse. Et nous, ça monte.
J'ai jamais compris pourquoi c'était beaucoup plus haut pour les hommes que pour les femmes. Or, l'homme est infidèle avec une femme.
Donc
il est bien infidèle avec une femme qui l'est aussi.
Ah, mais aujourd'hui, l'homme, il a peur.
Aujourd'hui,
l'homme, il a les boules. Hein.
Mais non, parce que les femmes sont plus célibataires. Donc souvent, en fait, le mec a une double vie alors que la femme croit qu'il va quitter sa femme alors que ça n'arrive jamais.
D'accord.
Et donc voilà, en fait, c'est ça la question. Mais la question, c'est pas ça.
Les femmes se comportent comme des hommes maintenant.
Donc elle est devenue lucide.
C'est ça la parité. Donc la question, c'est peut-on rester fidèle toute sa vie? Est-ce que ça, c'est possible? On attend bien sûr vos témoignages au 32-16 et sur la
pièce. Qui est là avec toi pour en parler?
On est avec Perico Légas.
Il y a la bande de Focu qui va répondre.
Bah, Perico Légas, il répond à tout, il n'y a pas de problème. On est avec Loumir Lapray, également militante associative, qui a fait toutes les manifs contre la réforme des retraites. Benjamin Muller. Voilà.
Et nous, on se retrouve lundi entre 9h et midi avec l'avocat Charles Consigny, le professeur d'économie Thomas Porcher, les orhabitants cadres de la fonction publique. Passez un bon week-end en attendant, vous débattez avec Estelle Denis et rendez-vous lundi 9h.